Radio Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
Bienvenue au désordre mondial, je suis votre arbitre Rachel Marsden. L'impérialisme profil bas de la Chine perce-t-il discrètement en France? Comment se manifeste-t-il ici et en Europe? Les America Bashers ont tendance d'accuser les États-Unis d'impérialisme ou de dirigisme. Mais la Chine se trouve largement exempte de ce genre de critique. Devrait-on être plus méfiant? Si seulement ceux qui sont trop sélectifs dans leurs critiques auraient écouté le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria et quelques autres voix errantes. À la fin de 2011, j'ai eu le privilège de participer à un panel au Maroc avec Lamido Sanoussi, l'ancien gouverneur de la Banque centrale de Nigeria et maintenant l'émir de Kano, qui avait comme mission d'éliminer la corruption au Nigeria. Sanoussi m'avait dit que le moment où un fonctionnaire peut placer sa main directement sur votre argent, sans que ça soit surveillé, cela constitue un problème. À peine quelques semaines après avoir assumé ses fonctions au Nigeria, il avait mis en cause 16 hauts responsables des banques. Sanoussi, à l'époque, avait aussi pris pour cible la Chine. On devrait se demander pourquoi. Dans un éditorial du Financial Times, Sanoussi a critiqué la nouvelle forme d'impérialisme de la Chine en Afrique, selon laquelle, d'après lui, et je cite, la Chine prend nos produits primaires et nous vend les produits manufacturiers. Ce fut aussi l'essence du colonialisme. Excusez-vous, Lamido. Les America Bashers appellent ça le commerce. Au moins quand c'est mené par les pays autres que l'Amérique et ses alliés traditionnels. Bien sûr, cela en dit long sur leurs préjugés anti-américains. Et mon rôle ici sur cette émission, c'est celui d'arbitre. Alors assurons-nous un jeu un peu plus égal. L'instabilité dans un pays crée un vide qui sera sans doute exploité. Et cette instabilité pourrait être économique autant que militaire. On pourrait penser, par exemple, à la France d'aujourd'hui, avec son chômage et ses manifestations assez violentes et persistantes contre le nouveau loi de travail. Et oui, ce n'est pas seulement l'Afrique qui se montre vulnérable aujourd'hui à des intérêts externes. La France d'aujourd'hui est bien vulnérable sur le plan économique. Que vous préférez voir la Chine ou bien l'Amérique profiter de l'instabilité d'une nation et venir alors à son secours dépend des valeurs que vous souhaiterez voir exporter ou diffuser. Personnellement, je préfère vivre dans un pays bien loin du régime de travail chinois où, selon un rapport des Nations Unies sur le travail, les travailleurs gagnent une moyenne dérisoire de 656 dollars par mois dans les emplois qui nécessitent parfois la mise en place des filets de suicide dans les usines. Par conséquent, je préfère voir la diffusion de normes de travail un peu plus généreux qui permettent à quelqu'un de assez bien vivre. En Afrique, la Chine est maintenant en train de gagner du terrain. Toute personne qui applaudit ce fait aurait peut-être intérêt de revoir sa position en commençant par ceci. Selon le Stockholm International Peace Research Institute, en ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, où l'impérialisme chinois est sans doute le plus actif, la base de données de transfert d'armes de l'Institut révèle que la Chine est passée de la quatrième place, fournissant seulement 6% des grandes armes classiques de l'Afrique subsaharienne entre 1996 et 2000, pour enfin devenir le premier fournisseur au cours de la période entre 2006 et 2010, avec 25% des parts de marché. Cela ne prend même pas en compte le commerce illicite des armes qui nourrit l'insurrection civile dans des endroits tels que le Soudan, où la Chine domine le marché de pétrole. Et tandis que certains ont tendance de défendre le commerce chinois et les pratiques commerciales dans les endroits comme l'Afrique, comme en quelque sorte moralement supérieurs au commerce du mauvais oncle Sam, impérialiste américain, Un rapport du South Africa Rights Watch en 2012 note qu'en analysant l'impact de l'investissement de la Chine dans les industries extractives dans 6 pays d'Afrique australe, c'est-à-dire Angola, République démocratique du Congo, Mozambique, Afrique du Sud, Zambie et Zimbabwe, les investissements chinois ne promouvoient pas, dans la plupart des cas, un scénario gagnant-gagnant, c'est-à-dire où la Chine et le pays hôte gagnent tous les deux. Le rapport recommande que les autorités chinoises devraient veiller à ce que les entreprises chinoises se conforment aux normes internationales, promouvoient le transfert de compétences et de technologies et participent à des initiatives internationales visant à promouvoir la transparence, la durabilité, la justice et la responsabilité sociale. Le rapport dit aussi que le gouvernement chinois devrait encourager et, le cas échéant, insister que les entreprises chinoises contribuent activement au développement social, politique et économique de l'Afrique. Avec de tels avertissements, devrait-on en France nous méfier du rôle que la Chine pourrait jouer chez nous, surtout dans cette ère de vulnérabilité économique? Avec moi aujourd'hui pour discuter de ce sujet, Alain Sépulcre est consultant international et expert senior sur l'Asie chez BCG et aussi auteur du livre « L'offensive chinoise en Europe ». Ancien dirigeant de Total en Chine et aussi ancien expert senior chez McKinsey, il est maître de conférences à l'Université Paris-Dauphine et à la Chinese University de Hong Kong. Bienvenue à l'émission.
Merci.
Alors, j'étais assez dure là sur les pratiques chinoises par rapport au travail. Aujourd'hui, en France, on voit beaucoup de manifestations autour du droit de travail. Mais aussi, on comprend que la Chine commence à percer le marché français. Où pourrait-on trouver les empreintes de la Chine aujourd'hui en France ?
La France n'est pas du tout prioritaire pour les investissements chinois, de façon assez générale. On l'a un petit peu vu s'activer les 3 dernières années, principalement au niveau de l'écosystème du tourisme. Le rationnel étant que les Chinois vont de plus en plus arriver en Europe et sans doute visiter Paris et d'autres grandes villes de France. Donc les Chinois ont investi dans l'hôtellerie, ils ont investi dans les aéroports, ils ont essayé d'investir dans les zones industrielles. C'est plus compliqué. Au niveau technologique, c'est principalement aujourd'hui l'Allemagne. Pour les infrastructures, c'est plutôt l'Angleterre, voire la Grèce ou le Portugal. Il y a également pas mal d'investissements dans les vignes. Et aujourd'hui, en fait, comme la demande chinoise de vin de luxe a plutôt diminué, on se rend compte que déjà certains de ces investisseurs chinois commencent à revendre ce qu'ils ont acheté sans doute à bon prix il y a quelques années.
Et où se trouve-t-il en Europe ? Est-ce que c'est la même stratégie des investissements dans le domaine du tourisme ?
Donc les Chinois, non, comme je l'ai dit, les investissements chinois sont relativement différents d'un pays à l'autre. Parce qu'ils ont bien compris que les atouts d'un pays ne sont pas ceux d'un autre. Typiquement en Allemagne, voilà, ce sont des grosses PME qui ont des atouts technologiques qui sont très très forts. Et les Chinois sont très intéressés par acquérir cette technologie et la transférer au niveau chinois. Donc pendant de nombreuses années, c'est ce qui les a motivés. Et encore aujourd'hui, en général, les gros dossiers sont plutôt des dossiers allemands. En Angleterre, c'est principalement les administrations anglaises qui ont déficit dans les infrastructures ou dans d'autres établissements publics. Ont eu intérêt à générer donc des financements qui sont venus de façon assez éloquente de Chine. C'est également le cas de l'immobilier. Les Chinois investissent beaucoup dans l'immobilier et principalement dans les pays anglo-saxons parce qu'étonnamment, venant d'un pays où les régimes légaux et fiscaux sont assez compliqués à lire et à respecter, ils aiment beaucoup. Tout à l'opposé des pays dans lesquels les régimes fiscaux et les régimes politiques sont stables. Et pour ça, bien évidemment, l'univers anglo-saxon est de loin le prioritaire, que ce soit les États-Unis ou l'Angleterre. En Italie, en Espagne, au Portugal, en Grèce, c'est plus opportuniste. C'est un petit peu ce que vous racontiez sur l'Afrique. ils viennent en fait en prédateurs. Ils se rendent compte qu'il y a des bonnes affaires à faire. Ils sont souvent seuls en lice parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui ont beaucoup de trésorerie comme les Chinois. Ils viennent souvent avec des propositions assez intéressantes de redéveloppement. Ils viennent aussi avec des propositions de financement qui sont souvent très compétitives. Et donc cela les met vraiment en position de très très grande force.
Alors, est-ce que les pratiques par rapport aux salariés, ça change dans une entreprise lorsque les Chinois investissent là-dedans?
Aujourd'hui, c'est trop tôt pour le dire. Il y a tous les cas d'école. Au début, en fait, les Chinois se sont montrés plutôt assez offensifs. Donc, ils arrivaient quelque part, ils avaient envie de tout signiser. Ils se sont bien vite rendu compte que ça marchait pas du tout parce que les pratiques sociales d'un pays à l'autre sont très différentes. Ils se sont beaucoup étonnés du fait qu'en Europe, en effet, principalement en France, il est difficile de mettre quelqu'un à la porte. Il est même parfois difficile de critiquer quelqu'un de façon assez ouverte. Donc au début, ça a été relativement sinisant. Et puis les années venant, ils ont plutôt approché le même problème de façon complètement opposée, en évitant en fait trop d'ingérence. Et quand j'ai interrogé les sociétés françaises ou américaines ou allemandes qui avaient des patrons chinois, c'était plutôt l'excès inverse. En fait, ça manque de Chinois. Il y a des jeunes Chinois qui viennent quelques années pour un peu apprendre le métier parce qu'ils parlent l'anglais. Mais au niveau du senior management, parce qu'il y a peu de gens qui parlent anglais, il y a peu de gens qui ont envie, en fait, peu de Chinois qui ont envie d'habiter longtemps en Europe, c'est un peu le grand vide. Et donc, tous les aspects synergétiques d'intégration de l'investissement européen avec la Chine se fait finalement assez mal parce que, au niveau HR, les Chinois sont en fait relativement peu présents. Alors ce qu'on ne sait pas, et je pense que c'est celle-là la vraie question pour demain, c'est la corporate governance au niveau des conseils d'administration. En Europe, c'est très habitué aux Américains, elle s'est habituée aux princes d'Arabie, elle s'est habituée aux oligarques russes. On ne sait pas très bien encore ce que va devenir un administrateur chinois dans une entreprise du CAC 40. C'est pas encore le cas. Tôt ou tard, ça va le devenir. Et ce sera là de façon assez intéressante de comprendre quelle est vraiment la logique chinoise. Si elle est dominante, colonialiste, post-colonialiste. Je pense qu'aujourd'hui, c'est trop tôt pour le dire.
Ouais, c'est ce que j'allais me demander. C'est quand il y a cette dynamique entre une entreprise occidentale et son conseil d'administration, disons français ou anglais, et ils sont en contact direct avec des intérêts communs avec des administrateurs chinois dans la même entreprise, c'est qui a le plus d'impact sur l'autre? Est-ce que c'est les pratiques occidentaux qui sont remportées en Chine et qui influencent leur façon de traiter le business là-bas, ou est-ce que c'est l'inverse?
Je dirais que globalement, il n'y a pas beaucoup d'osmose pour l'instant. Je pense que la bonne façon de régir, en tout cas la bonne façon que les Chinois ont intégré de réfléchir à cette question qui est vraiment fondamentale, c'est de rester Chinois en Chine et donc de garder des pratiques, on va dire, assez efficaces, assez hiérarchiques. On donne un ordre et puis les gens obéissent, et de garder en Europe les pratiques plus européennes, de consensus, de discussion, entre guillemets, pour eux d'un peu de perte de temps, c'est pas très efficace, mais bon, ça marche en Europe, alors on laisse comme ça. Donc en fait, ils vivent en fait un peu dans un double monde, un monde où quelque part ils se disent, c'est en respectant les us et coutumes locaux que finalement on sera les meilleurs. Et je pense que globalement, c'est plutôt une position assez intelligente.
Et vous êtes basé en Asie depuis des années maintenant, et présentement vous êtes basé à Hong Kong. On n'entend pas trop souvent parler de la classe moyenne chinoise. Est-ce que ça existe?
Alors la classe moyenne chinoise, elle existe certainement au niveau pécunier. Donc si on prend une classe de gens qui gagnent entre 2000 et 5-6 000 US par mois. Oui, c'est une classe très importante. La chiffrer, c'est compliqué. On est sans doute entre 100 et 200 millions de personnes. La difficulté, c'est qu'une fois qu'on a ce nombre, c'est de les caractériser. En fait, ce sont des gens qui sont beaucoup plus jeunes que la moyenne, que la classe émergente en Europe ou aux États-Unis, parce que c'est la première génération qui, quelque part, s'enrichit. C'est une classe qui donc a été juste à l'école, qui a beaucoup appris par cœur, qui s'est beaucoup intéressée à s'investir à l'université et puis à réussir son travail. Donc c'est une classe en fait qui s'intéresse encore assez peu à tout le reste, que ça soit les loisirs, les vacances, la politique, la démocratie. Donc quand on rencontre ces gens-là, il y a en fait une distanciation assez importante, il y a un écart assez incroyable entre ce qu'ils font dans le travail qui est très professionnel et qui est parfois très occidentalisé et très normal, on va dire, et puis leur pensée générale en tant qu'humain, qui elle est en fait assez rétrograde parce que insérée dans un contexte politique qui est complètement chinois.
Alors, est-ce que c'est assez pour soutenir l'économie domestique de la Chine? Parce qu'on part souvent du fait que c'est la base manufacturière que nous avons externalisée, les pays occidentaux ont externalisé à la Chine, qui fournit les classes moyennes ailleurs. Est-ce que la Chine est au point maintenant où la classe moyenne chinoise peut soutenir cette base industrielle domestique?
En grande partie, oui. Et on se rend compte que dans la plupart des produits manufacturés, qu'ils soient de base ou de plus en plus sophistiqués, on va dire que 50 à 70% des produits consommés en Chine sont des produits chinois qui intègrent bien évidemment des matières premières étrangères ou des savoir-faire étrangers. Mais une sinisation assez importante de la plupart des produits de grande consommation et même des produits de moyenne ou de haute technologie. Il y a un TGV chinois maintenant qui fonctionne très très bien. Tout le monde dit qu'ils auront un avion de première génération, donc assez basique, dans les 5 à 10 ans qui viennent. Ils ont déjà des fusées. Dans beaucoup d'autres domaines, ils sont quelque part tout à fait en ligne avec les produits standards européens ou américains. Mais ceci dit, c'est vrai, si on regarde de façon à long terme, ce que cherchent vraiment les Chinois en dehors de Chine, c'est deux choses. D'une part, c'est le rattrapage technologique. Ils se rendent bien compte que rattraper les géants américains ou les géants européens, ils n'ont pas le temps quelque part pour le faire de façon domestique. Et donc, ils achètent des entreprises européennes ou américaines avant tout pour rattraper ce décalage-là. D'autre part, comme vous l'avez dit initialement, dans beaucoup de domaines, les Chinois ont surinvesti, il y a des surcapacités énormes, y compris de main-d'œuvre. Et donc, à travers des projets en Afrique ou dans d'autres pays, ils cherchent avant tout à écouler à la fois leur main-d'œuvre et à la fois leurs produits industriels.
Et on entend souvent parler de ces salaires qui sont atroces, disons, parce qu'ils ne gagnent pas beaucoup d'argent du tout. Je me demande comment ils vivent. Qu'est-ce que le pays va faire au sujet de ça? Est-ce que ça va se résoudre assez vite? Alors, et comment?
C'est vrai, c'est pas vrai. Les niveaux de salaire sont relativement bas maintenant. Ils augmentent de façon annuelle, de façon très très significative. Et de nouveau, vous parlez d'une génération de gens qui sont partis de zéro. Donc quand on vient de zéro, qu'on est déjà à 600 US, c'est une progression assez importante. Et puis de 600, c'est pas tellement le 600 qui compte, c'est qu'on sait que dans 3 ans, on sera à 2000 et puis on va changer de ville et de boulot et on sera à 5000. Donc en fait, ils restent relativement optimistes et combatifs parce qu'ils savent que demain sera meilleur. D'autre part, j'ai eu un fonds d'investissement qui a investi dans quelques sociétés chinoises et on se rend compte que pour la plupart des managers ou des patrons, le salaire c'est 15 à 20% de leur compensation. Ils ont en fait des avantages énormes, souvent à haut niveau, une voiture, ils ont un chauffeur, ils ont une cuisinière, ils vont avoir un domicile gratuit ou à peu près gratuit, des voyages scolaires, les frais de scolarité de leurs enfants vont être payés, et ainsi de suite. Donc en fait, la part salariale, et en fait à ce niveau-là, ils sont très très peu taxés.
Alors ça c'est le moyen, mais quand on part des salariés par exemple de Foxconn, des entreprises qui fabriquent les iPhones, la technologie, ils ne sont pas aussi bien payés même que ça. Alors, ça représente quelle partie du pays en ce moment, les gens comme ça, qui gagnent des centimes par heure, disons?
Je n'ai pas les chiffres, je dirais entre 5 et 15% de la masse salariale totale. Mais là aussi, je pense que mes deux raisonnements sont justifiés. De un, l'espoir toujours que demain sera meilleur, et donc on a 17 ans, on n'a rien à faire, on n'a pas été très éduqué. Bon, on commence chez Foxconn, mais beaucoup de ces gens à 30-35 ans se retrouvent manager d'une petite boîte et gagnent bien évidemment à ce moment-là beaucoup, beaucoup plus. Et même à ce niveau de très, très bas salaire, le dortoir est là, la nourriture est gratuite, l'assurance aussi. Et donc voilà, donc on peut pas comparer ça à un SMIC, parce que quand un SMICard a un SMIC, c'est tout ce qu'il a. Quand un Chinois vit dans une entreprise comme Foxconn, en fait, son salaire, c'est quelque part son épargne, parce que tout le reste lui est payé.
Et on entend parfois parler des exemples d'espionnage économique, traitant surtout de vols de secrets commerciaux par des acteurs chinois dans les entreprises européennes et occidentaux. c'est quoi la solution à ça? On entend parler des cas des individus qui viennent ici et qui volent des secrets d'entreprise et qui repartent et qui profitent de cela en Chine. C'est qui gère ça, tout ce processus, tout ce phénomène, et c'est quoi la solution?
Écoutez, la solution viendra du fait d'un gros Chinois qui se fera attraper par un autre gros Chinois. Et on voit que c'est comme ça que ça se passe de façon générale pendant très longtemps dans l'automobile, parce que les marchés chinois étaient absolument incroyablement juteux et croissants. Les sociétés comme Toyota, comme GM et d'autres se sont fait spolier leur technologie, et finalement on ne disait rien parce que quelque part la réalité chinoise faisait qu'ils se faisaient tant d'argent sur place qu'ils avaient qu'un intérêt, c'est à se taire. Et puis quelque part aujourd'hui vous avez des sociétés chinoises en automobile comme Chery, comme Geely, qui sont dirigées par des hommes chinois très riches, qui eux-mêmes se sont fait voler. Et à ce moment-là, tout à coup, la Chine s'est réveillée et s'est intéressée aux intellectual property rights. Donc en fait c'est de nouveau, partant de rien, ils comprennent pas vraiment quelle est la nécessité de se protéger. Mais une fois qu'entre eux, la difficulté naît, alors quelque part, tout de suite, ils se mettent à la page et deviennent excessivement rigoureux.
Et on voit aussi la France pivoter vers l'Asie récemment, et non pas seulement vers la Chine, mais vers toute la région de l'Asie-Pacifique, avec la vente de sous-marins à l'Australie, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on est en train de voir ce phénomène-là maintenant?
Écoutez, l'Asie au niveau population, que ça soit l'Inde, la Chine, l'Asie du Sud-Est, c'est 70% de la croissance future. Donc bien évidemment, l'appel d'air est très très conséquent. L'Afrique est une interrogation, je pense qu'elle croit aussi, mais bon, sur des bases aujourd'hui qui sont beaucoup plus petites. Beaucoup de gens ont cru au Moyen-Orient, à la Russie, ils sont rentrés un petit peu déçus. Beaucoup de gens croient aujourd'hui à l'Iran, mais bon, sans doute que ce ne sera pas dans les 2-3 années qui viennent. Tous mes amis qui travaillent en Amérique latine sont excessivement déçus de ce qui s'y passe, au niveau corruption. Donc quelque part, voilà, l'Asie, c'est quand même, on va dire, globalement 800 millions de gens à peu près éduqués, à peu près normaux, qui ont envie de ressembler à l'américain ou à l'européen moyen. Et donc, il y a une attractivité qui est vraiment très, très importante.
Et c'est quoi le regard de la Chine sur la France-Afrique? Parce que c'est un domaine typiquement français. C'est facile de croire qu'ils se croiraient en compétition avec la France en Afrique.
Alors, ils sont à la fois en concurrence et à la fois aussi, ils voient les intérêts des partenariats. Mais les Chinois, de façon assez générale, vont toujours travailler en option où ils vont tâcher de tracer deux voies en parallèle. Donc, ils vont aller s'attaquer au marché du Gabon, enfin au marché marché de Côte d'Ivoire que les Français connaissent très très bien, en direct, avec M. Wang, M. Chan, et puis ils vont les voir. Ils vont bien évidemment aller sur place avec une banque d'investissement, avec des autorités, des gens qui parlent français, et puis ils vont voir jusqu'à quel point ils peuvent réussir. Et en même temps, ils vont activer leur réseau à Paris, les ambassades, enfin les diplomates français, pour tâcher de trouver quelque part aussi une transaction possible avec la France. Et puis, ils verront bien, in fine, la trajectoire qui sera la meilleure des deux.
Alors c'est offensif sur place et la séduction du pays qui est en compétition, c'est ça?
Tout à fait.
C'est une stratégie assez intéressante, ça. C'est différent de la stratégie des Américains, vous croyez?
Enfin, je pense que les Chinois comme les Européens intègrent les différentes dimensions de l'économie avec toujours un petit grain de sel. Enfin, voilà, un petit quelque chose. D'ailleurs, les Américains sont beaucoup plus noirs et blancs. et je pense que pour ça, les Chinois et les Européens, de façon générale, s'entendent plutôt mieux.
Et avec toutes les manifestations en France contre la loi de travail et proposées par le gouvernement socialiste, comment justifier l'accueil en France des pratiques du Parti communiste de la Chine dans le domaine du travail?
J'ai pas de réponse bien précise à vous donner parce que je pense qu'en France, quand je vois une société comme Huawei, qui est sans doute la principale société chinoise qui a pignon sur rue ici avec des milliers d'employés, ils respectent
les lois
françaises de 0 à 100%. Ils se sont bien rendus compte qu'au début, ils ont essayé d'un petit peu se dépatouiller tout ça. Ils ont ils ont tâché quelque part de siniser le système. Et puis, la plupart, enfin, les employés mécontents étaient au prud'homme. Mais bon, je pense qu'une société chinoise n'a vraiment aucun intérêt à se faire attraper par les prud'hommes. Donc, plutôt profil bas et payons les gens correctement, encourageons-les à comprendre que des sociétés chinoises comme Huawei, comme Haier, comme beaucoup d'autres vont se réorganiser, vont se globaliser et vont devenir aussi vénérables ou honorables que travailler chez McDonald's ou chez General Electric.
Ok, alors merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui, Alain Sépulcre. Et merci à vous d'avoir rejoint l'émission. Vous pourrez réécouter l'émission à tout moment sur desordremondial.com ou sputniknews.com.
Radio Sputnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.